France Info. France Info.
Oui, à 3 mois de la COP21, la grande conférence climat de Paris qui réunira les chefs d'État du monde entier. Parce que ce seront eux aux manettes de la Terre dans quelques années, France Info leur donne la parole avec l'opération hashtag ma planète 2050. Dès septembre, 1000 collégiens du monde entier, des 5 continents, vont travailler sur des solutions concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Le 3 novembre, France Info les réunit à la Maison de la Radio, un grand parlement des enfants qui remettra ses propositions au président de la République, François Hollande, et au ministre. Charge aux dirigeants politiques de porter ces propositions des enfants lors de la COP21. Alors cette réunion va-t-elle changer le monde? Que vont décider les adultes? Les choses se négocient en ce moment et c'est à l'un des négociateurs de la France que les CM1 de l'école Fourcroy de Paris posent leurs questions. Il s'agit de Pierre Radane, le président de 4D, dossier débat développement durable.
Qu'est-ce que veut dire le 21 dans la COP21?
Eh bien, les Nations Unies, qui regroupent tous les peuples, ont commencé de se réunir sur la question du changement climatique en 1992. Et ça va être la 21e réunion de ce type de l'ensemble des pays de toute la Terre, donc cette année à Paris.
Benjamin.
Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une de ces réunions, est-ce que ça marche bien ou alors ça donne un pas très bon résultat?
Eh bien, c'est très très compliqué parce que il faut à la fois que les pays prennent des engagements pour réduire ce réchauffement de la planète, mais bien évidemment, les pays les plus pauvres demandent aussi qu'on leur donne de l'argent pour pouvoir eux aussi agir. Donc certaines années, on avance. Certaines années, c'est plus difficile. On espère bien qu'à Paris, on va avoir un accord de l'ensemble des pays.
Pourquoi personne n'empêche que les glaciers fondent? Parce que, à ce qui paraît, dans quelques années, Miami sera sous l'eau.
On ne peut pas, bien sûr, empêcher les glaciers fondent. Si les glaciers fondent, c'est parce que, justement, l'atmosphère se réchauffe. Et si l'eau des glaciers coule dans la mer, bon, ça contribue, bien sûr, à faire monter le niveau de la mer. Alors, c'est vrai, surtout pour l'Antarctique. Bien évidemment, il faut qu'on arrête la cause de tout ça. Et la cause, c'est essentiellement nos consommations de pétrole pour nos voitures, de gaz pour nos chauffages ou de charbon qui est beaucoup utilisé pour la production d'électricité. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions à ça, essentiellement les énergies renouvelables.
Toscane.
Est-ce que les plus grands pays du monde sont les plus pollués?
Sont les plus pollués les pays qui ont le plus de production industrielle et qui sont les plus riches. Mais il y a la pollution locale qu'on sent, mais le gaz carbonique, lui, qui est lié au fait qu'on utilise du pétrole, du charbon et du gaz, lui, il circule dans toute l'atmosphère. Et donc, ce que émet un pays, ben, ça va dans le pays d'à côté. Et donc, en fait, à la fin, tout le monde est concerné. Le fait que les glaciers fondent, c'est du gaz carbonique qui a été émis parfois à des milliers de kilomètres.
Voilà, notre pollution, on en fait un don généreux à tous nos voisins et à l'humanité entière.
Oui.
Benjamin.
Est-ce qu'il est possible de contrer la pollution? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de pollution dans un endroit où il y en avait avant?
Le problème, c'est que, justement, sur ces émissions de ces gaz qui font le réchauffement, ils circulent sur toute la planète. Donc non seulement il faut les arrêter d'émettre ces gaz dans un pays, mais il faut surtout pas que ce soit repris derrière par un autre pays de l'autre côté de la planète. Il faut arriver à le faire tous ensemble. C'est-à-dire que le climat de la planète Terre, c'est quelque chose qui est indivisible, qui concerne tout le monde. Et donc il faut que tous les pays de la planète soient dans cette action pour réduire ces émissions.
Est-ce que tous les présidents ils sont chauds pour réussir à sauver la planète?
Ils sont bien évidemment engagés, mais il faut bien reconnaître que aussi en même temps, il faut à la fois qu'on améliore les conditions de vie des gens et qu'on réduise la pollution. C'est pour ça qu'on a cette négociation et qu'on essaye tous ensemble d'aller vers des choix qui permettent de réduire ces émissions, être économe en énergie, améliorer l'agriculture, réduire la déforestation, avoir des véhicules qui ne consomment plus de pétrole et puis d'utiliser les énergies renouvelables. Tous les pays aujourd'hui travaillent à ça.
Pierre Radane, le président de 4D, dossier débat développement durable, ouvrons justement l'un des dossiers du changement climatique, celui des transports, avec une ambition, passer du pétrole aux énergies renouvelables et pourquoi pas au solaire. C'est la piste en tout cas qu'explore en ce moment l'avion solaire Solar Impulse 2, un tour du monde en avion grâce à l'énergie solaire et seulement à elle. Alors quelles pourraient être les applications concrètes pour les transports du futur? Au micro France Info d'Estelle Faure, des CM1 de l'école Fourcroy de Paris, et pour leur répondre, le monsieur transport de France Info, lui-même pilote de tout ce qui vole ou à peu près, Gérard Felzer.
Est-ce que de conduire un avion normal et un avion à l'énergie solaire,
c'est différent.
Ah, question oui, au pilote.
Oui, alors là, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que le Solar Impulse, par exemple, a plus de 70 mètres de large, donc c'est très fragile. Et il est sensible aux turbulences, il est sensible au vent, il faut faire attention. C'est un pilotage très fin, surtout à l'atterrissage, parce que si on incline un peu, eh bien on risque de toucher l'aile sur la piste. Et voilà, ça demande beaucoup de qualité de pilotage.
Baptiste.
Est-ce que l'avion solaire, il marche au rayon du soleil ou à la chaleur du soleil ?
L'avion solaire, Baptiste, c'est un avion qui marche à l'électricité et l'électricité est fournie par la lumière du soleil. Elle n'est pas fournie par la chaleur. Et ces panneaux solaires, eh ben, ils chargent des batteries, comme ça, il peut tourner en permanence.
Et Léa ?
Est-ce que la nuit, il peut marcher, l'avion ?
Oui, il peut marcher la nuit, et heureusement, parce
que. Oui, il vaut mieux pour traverser le Pacifique.
En fait, pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil, les panneaux solaires stockent l'énergie dans des batteries, lesquelles batteries donnent de l'énergie pour voler la nuit. Sauf qu'il faut bien emmagasiner l'énergie pendant la journée, parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas assez d'énergie pendant la nuit.
Pourquoi on utilise le soleil et pas la lune ?
Alors la lune, malheureusement, ça n'est que le reflet du soleil. Donc ça ne fournit pas assez de lumière pour faire marcher des panneaux photovoltaïques.
Et oui, la lune, c'est un satellite, c'est une planète et ce n'est pas une étoile.
Ce n'est pas une étoile, ça ne fournit pas les rayons du soleil, ce qu'on appelle les photons. Et on appelle ça, alors là, pour les plus costauds d'entre vous, c'est l'énergie photovoltaïque.
Est-ce que bientôt on pourra construire des avions qui pourront transporter beaucoup de personnes et qui seront à énergie solaire ?
Il y aura de l'énergie solaire dans les avions, sur les ailes, parce que les ailes sont gigantesques, mais l'énergie ne suffira pas pour faire voler un avion. Simplement, ça va alimenter des batteries qui vont stocker de l'énergie, par exemple pour le sol, pour rouler les avions, des choses comme ça. Donc, l'électricité pour les avions de transport, oui, mais pas seulement en énergie solaire.
Oui, l'Airbus à 380, 100% énergie solaire, c'est pas tout à fait pour demain, Gérard.
Oui, il faudrait à peu près 150 terrains de foot en panneaux solaires.
Pour faire voler un A380.
Voilà.
Et Léa ?
On a déjà créé l'avion et le bateau solaire, mais est-ce qu'il existera des trains et des bus solaires ?
Des bus solaires et pas des bus scolaires, ça existe
oui.
Déjà.
Et oui, toutes les surfaces, que ce soit des bâtiments, des bus, des trains, sont aptes à recevoir des panneaux solaires. Partout où il y a du soleil, il faut le capter. Donc, à terme, on aura des panneaux solaires partout, y compris sur les bus et y compris sur les trains. D'ailleurs, ça existe déjà. Il y a un navigateur qui s'appelle Raphaël Dinelli qui va traverser l'Atlantique en septembre avec un avion solaire. Il appelle ça l'Eraol. Et il équipe déjà des bus et des trains avec des panneaux solaires.
Est-ce que, si ça continue, il y aura aussi des voitures solaires ?
Alimenter des voitures en énergie solaire, c'est pareil, ça ne suffirait pas. En revanche, c'est quand même trop bête de laisser sa voiture sur le parking du supermarché, par exemple, où il y a beaucoup de soleil, et de ne pas profiter de cette énergie. Alors donc, ça sert déjà, il y a des prototypes, où le toit de la voiture est équipé en panneaux solaires, et ça sert à climatiser la voiture. Si bien que quand tu rentres des courses, eh bien, ta voiture est au frais.
Baptiste.
Si on invente des voitures à l'énergie solaire et s'il n'y a pas de soleil à Paris, il y aura des embouteillages sur le périphérique ?
Oui, c'est une bonne question. Simplement, comme on ne roule pas qu'au solaire, on roule sur des batteries, le solaire ne fait qu'alimenter des batteries. Donc, il restera suffisamment d'énergie. Et puis, ça marche quand même quand il n'y a pas de soleil. La lumière, encore une fois, fait l'électricité. Donc, il y aura moins de production d'électricité, mais ça tourne toujours.
Gérard Feldzer, Monsieur Transport à France Info. Et rendez-vous dès demain pour la rentrée de France Info Junior, et oui déjà, 14h45 et 16h45, chaque jour, comme d'habitude, les questions des enfants sur l'actualité et les réponses à hauteur d'enfant des meilleurs spécialistes. À demain.